Bonjour, je m'appelle Bulle, j'ai deux enfants de 6 et 4 ans, j'ai beaucoup de mal à leur faire manger des légumes. Donc on m'avait dit, tu sais, tu allaites tes enfants, c'est génial, ils mangeront de tout, des choux de Bruxelles et des sardines à l'huile. Ça n'est pas le cas, bien évidemment, mes enfants, comme les autres, mangent des coquillettes collées au fromage râpé. Donc j'essaie de leur cacher des légumes dans des quiches, des flans, des soupes et des purées, mais ça ne fonctionne pas pour autant, ou alors un jour ça fonctionne, l'autre non, quand ils aiment un légume. Une semaine, ils ne l'aiment plus la semaine suivante. Voilà, j'ai peur qu'ils n'aient pas leurs apports en minéraux, vitamines, etc. Donc j'essaie de leur faire des salades de fruits quasiment à chaque dessert, mais j'ai peur qu'on n'y soit pas du tout au niveau nutriments.
Nous, notre fille, elle mange tous les légumes. C'est dingue, on a trop de la chance. Tu la connais cette petite phrase de tes potes qui enfournent allègrement dans la bouche de leur enfant une pleine cuillerée d'épinards alors que toi, t'as fait pour la cinquième fois cette semaine une assiette de pâte au beurre avec en entrée des petits bâtonnets de concombre en crudité parce que c'est le seul repas que ton gosse ne va pas renverser par terre. Que toi, parfois, tu uses de subterfuges indécents tels que le camouflage de courgettes dans une purée de pommes de terre avec sa bonne dose de kiri pour ne pas qu'il sente le goût. Oui, cette petite phrase, on l'entend tous et pire encore, on l'a tous prononcée. Pourquoi ? Parce que nos bébés mangent tous les légumes que nous leur proposons avant que leur grand virage à 180 n'entre en scène. Ils adoraient, ils détestent. Mais alors pourquoi nos enfants ne veulent plus un jour avaler nos super ratatouilles ? Doit-on se casser la tête à tout prix pour qu'ils mangent des légumes ou pas ? Quel risque pour leur santé s'ils les refusent catégoriquement ? Il ne faut pas croire, mais leur faire manger des légumes est un vrai sujet pour nous les parents et les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Alors comme moi, si vous vous retrouvez face à vos copains qui se vantent de leur petit génie du goût qui avale tout, ne les démoralisez pas en annonçant la tempête qui va arriver. Laissez-les profiter, y croire et souhaitez-leur intérieurement bon courage pour la suite. Catherine Bourron-Normand va nous expliquer à travers ses yeux de diététicienne spécialiste des enfants tout ce qui se joue derrière cet enjeu léguminesque. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comme on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère. Bonjour Catherine Bourdon-Normand.
Bonjour Dorothée.
Alors moi j'ai une question qui est peut-être simple mais qui je pense est nécessaire quand même pour les parents qui nous écoutent. À quel âge commence-t-on à donner des légumes aux enfants et est-ce qu'on sait pourquoi cet âge est défini ?
Alors, il faut reprendre effectivement la notion de diversification alimentaire, puisque le premier aliment de l'enfant, c'est le lait, soit le lait de sa mère, soit le lait infantile. Et puis, entre 4 et 6 mois, on va commencer à introduire d'autres aliments, et en particulier des légumes et des fruits. Et donc, c'est l'âge où il y a la meilleure tolérance, où on va induire une tolérance et on s'est rendu compte qu'il y avait moins de risques autour des éventuelles allergies et que c'était vraiment le meilleur âge pour le faire.
Est-ce qu'on peut donner dès le plus jeune âge, donc vous dites entre 4 et 6 mois, tous les légumes ou est-ce qu'il y a certains légumes qu'on doit introduire en premier, puis après plus tardivement et pourquoi ?
Bon, sur le papier, on pourrait dire qu'on peut introduire tous les légumes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des légumes qui ne sont quand même pas très digestes, type du chou-fleur, du brocoli, des oignons. Donc, on ne va pas commencer par ces aliments, même s'ils sont cuits et mixés, ce n'est pas très digeste. Donc, classiquement, on va faire du haricot vert, de la courgette, de la carotte, des légumes, on va dire, plus doux et mieux tolérés. Et à petite dose, en fait. Hein, ça va être vraiment une induction de tolérance, donc une petite cuillère à café en fonction de ce que l'enfant apprécie, en fait. On ne va pas brusquer les choses.
Et en quoi, d'un point de vue nutritif, les légumes sont essentiels à l'alimentation du petit et puis de l'être humain en règle générale ?
C'est une bonne question parce qu'effectivement, nutritionnellement parlant, les légumes et les fruits, il ne faut pas oublier que c'est entre 90 à 95% d'eau et que l'apport nutritionnel est entre 5 et 10%. Mmh. Donc l'apport nutritionnel, ça va être des sucres, ça va être des vitamines, ça va être des minéraux. Donc ce n'est pas capital pour l'enfant, c'est plus pour le futur, on va dire. Parce que entre 4 et 6 mois, l'enfant, objectivement, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de légumes et fruits. Mais on travaille, ces aliments, ils ont une fonction santé par rapport aux fibres, par exemple. Et donc, on en introduit pour préparer le futur. Mais nutritionnellement parlant, ça n'a pas d'apport indispensable. Donc, si ça ne marche pas entre 4 et 6 mois...
On peut décaler.
Exactement, on ne se prend pas la tête pour parler de façon simple.
Alors, pourquoi, comme je le disais dans mon introduction, les bébés, moi, mes bébés, c'était comme ça, ils raffolaient de mes purées de légumes, ils ont tout goûté, des épinards, les carottes, les haricots verts, bon, on arrivait à leur faire tout manger, et on ne sait pas pourquoi arrive un âge où ils nous recrachent tout à la figure, ils en veulent plus. Est-ce que vous avez une explication ?
Alors, il y a plusieurs explications. Bon, c'est vrai que cette période, 4-6 mois, on va dire jusqu'au premier anniversaire, il n'y a pas trop de sujets, bon, sauf troubles particuliers, des troubles autour de l'oralité par exemple, mais sinon la majorité des enfants vont effectivement, comme vos enfants, apprécier les purées, ils vont pouvoir faire la patouille, ils vont bien les manger, enfin ça sera un plaisir pour eux, bon, à condition effectivement qu'il y ait des féculents, qu'il y ait des matières grasses, il n'y aura pas de problème. Et puis après, il va y avoir une lassitude autour de la texture, parce qu'effectivement, si on ne propose pas les morceaux assez rapidement pour un grand nombre d'enfants, bah, la texture purée, ça devient un peu lassant. Et puis l'enfant a de l'autonomie, il ne peut pas avoir cette autonomie avec les purées. Et donc, il y a ce point-là. Puis après, dans la deuxième année de vie, il y a ce qu'on appelle la néophobie, qui fait que l'enfant ne va plus aimer des aliments qu'il aimait auparavant, et en particulier les légumes. Donc, quand il voit arriver des haricots verts en morceaux, alors qu'avant, il les a toujours eus en purée, c'est pour ça que c'est important aussi de passer progressivement aux morceaux. Ouais. Pour que l'enfant les identifie comme tels. Mais en fait, ce n'est pas suffisant parce qu'on a notre mémoire collective qui nous dit, attention, les légumes, danger. Quand on était chasseur-cueilleur, on se méfiait beaucoup des légumes, en particulier des légumes-feuilles qui étaient des poisons. Et donc, c'est ce qui arrive un peu au moment de la néophobie, c'est-à-dire que
vous
là,
vous pensez qu'il y a une mémoire archaïque comme ça qui se réveille
oui, complètement. Ah, oui. Les sociologues nous apportent comme tels ces notions. Et donc, ce qui fait que là, l'enfant prend conscience qu'il y a vraiment des risques avec l'alimentation, comme il prend conscience de plein de choses en grandissant. Et c'est vraiment cette période de la néophobie qui va être le moment un peu charnière où l'enfant aimait bien les légumes, puis il ne les aime plus. Et effectivement, pour les parents, c'est assez désarmant, on va dire. En plus, quand c'est le premier enfant, qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui va se passer. Clairement, c'est un moment très critique, on va dire.
Donc la solution, si j'entends bien, si notre enfant donc, refuse systématiquement à un moment donné les légumes, ce serait peut-être donc de lui apporter en morceaux pour qu'il puisse lui-même en plus le prendre avec les mains et manger seul.
Ça pourrait être une solution. Et puis l'autre solution aussi, c'est de pas en faire un grand cas en se disant « Ah là, il n'en veut plus, on en prend pour toute la vie, il ne va plus en vouloir. » Donc du coup, on va avoir des stratagèmes de plus en plus forts, on va s'énerver, on va chercher tout un tas de solutions. Et l'enfant va réagir.
Se bloquer.
Exactement, en se bloquant vraiment de façon importante. Donc chez certains enfants, ça ne se voit pas du tout. Enfin, c'est ce que vous disiez, des copains qui vous disent « Mais il n'y a pas de problème, le mien, il mange tout. » Effectivement, chez certains, rien ne se passe. Et chez d'autres, on va effectivement avoir des refus qui vont partir très haut et qui vont vraiment être une cause de conflit au moment du repas.
Certains parents, et j'avoue, je m'inclus dans ces certains parents, avouent camoufler les légumes dans d'autres aliments. C'est une technique. Hein, est-ce que c'est une technique à adopter ou à éviter, hein, parce que c'est vrai que, bon, quand on vous le disiez, on se dit qu'il faut absolument que notre enfant mange des légumes, donc on se met la pression. Donc on va camoufler, on va mélanger avec un légume qu'il aime bien un autre légume. Il y a d'autres parents, je sais, qui laissent leur enfant prendre un jouet à table pour faire diversion, lire une histoire, pendant qu'il lui fout la petite cuillère dans la bouche. Alors, est-ce que toutes ces techniques, c'est à éviter ou à adopter ?
Après, ça dépend un peu comment c'est fait. Enfin, bon, moi, la technique du jeu, objectivement, je pense que c'est une technique qui va quand même engendrer un gros conflit. Enfin, si c'est un jeu vraiment qui n'a rien à voir avec le repas, parce que bon, on pourrait dire à ce moment-là proposer une petite assiette spécifique, une cuillère spécifique, et que l'enfant joue et que le parent nourrit de l'autre côté. Pourquoi pas, c'est une forme de jeu autour du repas. Mmh. Maintenant, le jeu qui commence par une petite voiture ou je sais pas moi un livre, puis ça va partir sur le dessin animé, puis les parents qui dansent. danse. Enfin, voilà, ça va être crescendo. Et franchement, moi, je conseille pas du tout de partir là-dessus parce que c'est vrai que ça va encore plus favoriser la tension autour du repas, quoi. Donc, alors après, camoufler, oui, bah pourquoi pas. Nous, en tant qu'adultes, on mange bien des quiches aux légumes, on mange bien des cakes aux légumes. Enfin, bon, voilà, c'est pas. Par contre, moi, ce qui me pose plus problème, c'est quand les parents, par exemple, disent on fait des haricots verts et puis on dit que c'est des frites vertes. Oui. Là, je trouve que c'est vraiment de la tromperie.
Bon, ouais, non, là, ça va pas.
Voilà, mais il y en a quand même un certain nombre hein, qui proposent ça en disant surtout, faut, ne lui dites pas, ne lui dites pas, ne lui dites pas. Donc, je crois que c'est quand même le mauvais plan. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'enjeu enfin, autour de ces légumes et de ces fruits. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en tant qu'adulte.
Mais oui, comment est-ce que vous expliquez que nous, les parents, se mettent autant la pression pour que nos enfants mangent des légumes à chaque repas, comme si sa vie en dépendait? On n'en fait pas un peu trop aujourd'hui?
Moi, je pense qu'on en fait vraiment trop et qu'on a des pressions autour des messages de santé publique, autour même des personnes qui ne sont pas dans le monde médical vont dire « oui, mais c'est important qu'ils mangent des légumes, ça prévient des cancers, ça prévient des maladies cardiovasculaires ». Enfin, vous voyez, c'est des messages quand même assez forts de peur. Donc, pour les parents et qui veulent le meilleur pour leur enfant, bah, c'est sûr, ils se disent « mais il faut absolument qu'il en mange des légumes, s'il n'en mange pas, c'est fichu pour toute sa santé, pour toute sa vie ». Donc, et je crois que ça, il faut vraiment le relativiser, en fait. Hein. Donc, quand l'enfant commence à plus manger de légumes, bon, on en propose, mais on n'oblige pas. On va voir ce qui va se passer, parce que parfois, ça va durer 15 jours. Puis si on met la pression, ça va durer 3 ans. Donc, voilà, on sait que c'est une période. L'ajustement du comportement des parents et de ce que souhaite l'enfant va vraiment se jouer là. Et qu'en plus, il y aura des enfants qui auront des palais très, on va dire, très fins, qui ont des capteurs qui sont très différents des autres et qui vont sentir que la courgette a un goût, alors que la majorité dit bon, la courgette n'a pas de goût. Donc, il y a tout un ensemble qui va se jouer entre la pression sociale, la pression de prévention de santé, qui vont faire plus après bah, la relation parent-enfant, qui peut vraiment monter très fort avec des aliments comme les légumes.
On est pris entre deux feux parce que vous parlez de pression sociétale, effectivement, où on nous dit manger autant de fruits et légumes par jour pour leur santé, etc. Donc nous, on pense à nos enfants. Puis d'un autre côté, bah, on a toutes ces publicités autour de produits transformés, de malbouffe, sur lesquels les enfants vont se jeter. Donc c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui, en fait, d'éduquer nos enfants à manger des fruits et des légumes.
C'est ça. Et après, ce qui est aussi ennuyeux, c'est qu'on met sur un piédestal des fruits et des légumes. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. C'est des aliments importants. Mais moi, dans ma pratique professionnelle, je vois aussi beaucoup d'enfants, même des petits-enfants, qui ont des courbes de poids et taille déplorables. Oui. Parce que ces messages de santé publique sur le moins gras, le moins sucré, le plus de légumes et de fruits, est appliqué à la lettre pour les enfants. Et du coup, on n'a pas de couverture correcte des besoins parce que pour les parents, ils retiennent fruits et légumes, peu de matières grasses et pas de sucre. Donc, ce qui donne un peu des catastrophes quand même sur des enfants de 18 mois, 2 ans ou même des préadolescents qui, du coup, ne couvrent pas leurs besoins parce qu'eux, par contre, ils mangent des fruits et des légumes à haute dose.
C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On parle des problèmes d'obésité, on parle du gras, du sucre, etc. Donc vous rencontrez des parents qui sont, on va dire, entre guillemets, des pro-légumes à fond, pas de gras, pas de sucre. Et vous avez beaucoup d'enfants donc, qui ont cette courbe de croissance qui est en dessous.
Ah, complètement. Alors, c'est pas pour tous les enfants, comme l'obésité. Hein. L'obésité, de toute façon, c'est à peine 20% de la population des enfants. Donc, c'est vrai qu'on a un message un peu global hein, en disant tout enfant est un obèse potentiel, ce qui n'est pas la réalité. De même, quand moi je dis, je vois beaucoup d'enfants, alors c'est vrai que je ne fais pas de comptabilité, mais ça fait partie des gros problèmes qu'ont les pédiatres et les endocrinologues qui constatent qu'effectivement, Il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas de pathologie particulière, c'est juste une mauvaise couverture des besoins. Donc, les légumes, comme je disais tout à l'heure, nutritionnellement parlant, c'est surtout de l'eau, des fibres, des vitamines, des minéraux, mais ça n'a jamais fait grossir personne. Donc, l'enfant, il a un besoin de croissance, et ça, il faut quand même le rappeler pour aussi déculpabiliser les parents en disant, bon, si ponctuellement, pendant 2, 3 mois, mon enfant chipote sur les légumes, bon, c'est pas très grave. Ça reviendra et il finira par en manger des légumes. Parce que souvent, les fruits sont bien mangés, par
Et ce que
exemple.
vous disiez aussi, et ne pas oublier que sur les légumes, d'assaisonner et de mettre des matières grasses aussi.
Exactement, parce que les matières grasses ont aussi un rôle très important, c'est-à-dire d'avoir des huiles et pas que de l'huile d'olive, parce que les enfants comme les adultes d'ailleurs ont besoin d'avoir des acides gras essentiels qu'on va trouver dans l'huile de colza, qu'on va trouver dans l'huile de noix, qu'on va trouver dans les poissons gras. Et donc c'est important d'avoir vraiment des belles quantités de matières grasses, parce que ça fait partie de leurs besoins à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et puis ça aide aussi à manger les légumes, parce que c'est vrai qu'avoir des haricots verts bouillis avec à peine
Ouais, c'est pas très
de la
fun.
matière grasse, pas que, voilà.
Et donc on varie les matières grasses aussi. Donc pas toujours la même huile, ou alors on varie avec du beurre, on change.
Voilà, entre beurre, crème fraîche, différentes huiles, parce qu'effectivement, on peut aussi le faire en fonction de ce qui s'accorde bien avec le légume, en fait.
Et si nos enfants n'aiment pas les légumes cuits, mais par contre les légumes crus, ça fait un carton, les petits bâtons de concombre ou de carottes, est-ce que d'un point de vue nutritif, c'est quand même pas mal s'ils mangent que des légumes crus, ou alors s'ils n'aiment pas du tout les légumes et qu'ils se rabattent que sur des fruits?
Ben voilà, tout marche en fait, hein, parce que bon, le légume cru, je dirais que ben là, il va avoir le maximum de vitamines et de minéraux, puisqu'il
Oui.
n'y a pas de perte à la cuisson. Après, il faut juste s'assurer que l'enfant le mastique bien et qu'on ne peut pas proposer, par exemple, des bâtonnets de carottes non cuits à 2 ans, parce qu'on a quand
Bien
même un
sûr.
gros risque de fausse route. Pareil, les tomates cerises, de penser à bien les couper en petits quartiers pour si l'enfant est en dessous de 3 ans aussi, pour qu'il n'y ait pas de risque autour de l'étouffement. Mais pour moi, nutritionnellement parlant, c'est un peu comme les huiles, c'est-à-dire que on va varier, on va avoir des apports différents. Alors après, c'est vrai que parfois les enfants, comme ils mastiquent pas très bien et que les fibres des légumes crus, c'est pas très digeste, on risque de les retrouver dans les selles, quoi. Mais bon, après, il n'y a pas de sujet. Si l'enfant préfère manger des tomates cerises, des concombres et des bâtonnets de carottes plutôt que de la carotte cuite, bon,
Ouais.
c'est très bien.
Et des
De même les
fruits,
fruits,
oui, c'est ça.
voilà. Parce que les fruits, souvent, il y a moins de rejet du fruit que du légume. Donc, on trouve rarement quand même des enfants qui ne mangent ni légumes ni fruits. Donc, en général, ça permet quand même d'avoir un minimum d'apport en fibres et de continuer à solliciter, en fait, au niveau gustatif.
Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quand même des légumes qui sont plus facilement acceptés par les petits, histoire de dire aux parents de ne pas s'acharner forcément à faire des, je sais pas moi, des purées de céleri rave ou du topinambour?
Après, ce qu'on voit, enfin, les spécialistes du goût, eux, montrent que la couleur orange est mieux acceptée par une grande majorité des enfants.
Ok.
Donc, souvent, ça marche mieux que
Le
le
vert.
légume de couleur verte, voilà. Ou même le blanc. Il y a pas mal de dégoût sur la couleur blanche. Donc, la purée de céleri entre l'odeur et la couleur, bon, à voir. Mais bon, parfois, c'est très surprenant, hein, dans les enfants qui veulent pas manger de légumes. Quand on leur donne des légumes qui ont plus de goût, qui sont plus cuisinés, qui vont avoir plus de saveur, ça va mieux marcher que des légumes plus fades aussi. Donc après, je pense qu'il faut tester un peu différentes solutions et puis en ne mettant pas de pression, en disant bon voilà, je l'ai cuisiné, il n'en mange même pas. Je pense que c'est important de le cuisiner pour la famille et
Oui,
qu'après,
on nous voit manger.
exactement. Après, il faut aussi que les deux parents en mangent, parce que très souvent, enfin, on voit les parents qui sont très demandeurs vis-à-vis de leur enfant, mais eux, en tant que parents, n'en mangent pas forcément des grosses
Ah ouais.
quantités, font de telles grimaces que ça marche pas, quoi.
Non.
Donc, il y a aussi ce problème-là.
Mange ce légume dégoûtant que je déteste, oui, donc ça va
Voilà,
pas
c'est ça.
marcher.
Bah, typiquement, les épinards, enfin, c'est un peu les gestes qui nous trompent, hein. Quand ça arrive en purée, même avec la crème fraîche, il y a un grand nombre d'adultes qui n'aiment pas trop et qui vont faire une grimace en apportant les épinards, hein. Donc, bon, l'enfant, il voit bien tous ces signes.
Ouais.
Donc, bon.
Qu'est-ce que vous pensez de ces parents qui sont à bout parce qu'on peut les comprendre, que les enfants ils n'arrivent pas à manger des légumes et que bah, ça se fâche à la maison, et ces parents qui ont décidé de tout lâcher, qui ne se battent plus et qui acceptent finalement de faire des repas, vous savez, quasi identiques tous les jours à base de pâtes, de riz ou de pommes de terre.
Jambon pâte,
Voilà,
c'est
tous les
ça.
jours.
Après, ça peut être bien, mais j'ai envie de dire ponctuellement. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même y revenir un petit peu. Et puis, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément le partage d'un même repas pour l'ensemble de la famille. Du coup, quand je disais de lâcher quand ça commence à arriver, ce problème de la néophobie, c'est de lâcher dans le sens, bon, on en met un petit peu, ou on fait des repas, on n'en propose pas. Mais de là à tout lâcher, généralement, on n'y reviendra pas, quoi. Donc, soit il y a vraiment un trouble autour des repas d'une façon générale et du coup, bon, on lâche tout et on se dit on verra ça plus tard. Mais pour la majorité des parents, je pense qu'il vaut mieux pas tout lâcher, en fait. C'est prendre du recul, ne pas se fâcher, ne pas se mettre dans tous ces états parce que ça fait 3 mois que son enfant ne veut plus manger aucun légume. Après, il faut le relativiser et y revenir tranquillement et continuer en tant que parent de manger des légumes devant l'enfant.
De proposer, quoi, en tout cas.
Exactement. Après, c'est vrai que c'est viscéral, l'alimentation. Donc,
Mais
c'est
oui.
vrai que pour certains parents, je crois que c'est difficile de prendre du recul parce que, bah, eux, ils imaginent le point santé, en fait, clairement.
Quelle serait pour vous l'assiette équilibrée et idéale pour un enfant, on va dire, de 5 ans, par exemple?
Déjà, à 5 ans, ils n'ont pas besoin d'avoir de la viande midi et soir. Donc, c'est vrai que ça veut dire qu'à un repas, il y aurait la demi-part de viande d'un adulte ou la demi-part de poisson ou un œuf. Après, il y aurait une partie, on va dire 2-3 cuillères à soupe de féculents et 2-3 cuillères à soupe de légumes. Et le soir, il y a la même chose, mais sans viande, ni poisson ni œuf. Donc après, l'enfant mange ce qu'il veut dans cette assiette qui est une assiette, on va dire, l'équivalent de l'assiette à dessert, quoi. Globalement, ça fait moitié légumes, moitié féculents et un petit morceau de viande ou équivalent de viande une fois dans la journée.
Vous avez beaucoup parlé de néophobie. Vous dites qu'il ne faut pas non plus trop se stresser puisque c'est un passage, on va dire, qui est naturel. À partir de quand les parents, quand même, doivent s'inquiéter et aller consulter? Quels sont les signes qui nous disent, ouais, là, quand même, il faudrait peut-être qu'on aille voir quelqu'un?
Après, je dirais que c'est s'il y a à la fois des problèmes de texture, c'est-à-dire que l'enfant n'est toujours à la purée, qu'il ne mange pas tout seul, que les repas sont des crises très importantes pour l'ensemble de la famille, je pense que ça peut être intéressant d'aller consulter pour essayer de dédramatiser un peu la situation, voir si ça a un impact sur sa nutrition, enfin bon, aussi que quelqu'un soit un peu médiateur dans cette situation. Voir un peu les points importants.
J'avais une dernière question, Catherine. Moi, je trouve qu'on voit souvent des recettes qui ont l'air super bonnes dans les magazines pour faire manger des légumes à nos petits, mais que souvent ce sont des recettes qui demandent un certain temps de préparation. Et en tant que maman, on n'a pas forcément devant soi. Est-ce qu'un légume apprécié est forcément un légume ultra préparé, cuisiné, agrémenté pour que nos enfants les mangent?
Alors, c'est une question difficile parce que tout le monde a un peu des niveaux d'exigence différents. Après, je dirais, c'est aussi la culture familiale. Il y a des familles pour lesquelles cuisiner est important, donc ils vont cuisiner le week-end et puis ça leur prendra peut-être du temps, mais ils en font beaucoup plus et ils en restent dans la semaine. Après, il y a aussi des choses relativement faciles d'utiliser, par exemple, des légumes soit en conserve, soit surgelés nature, où on n'a plus qu'à les faire cuire, on peut les faire sauter, on peut mettre des épices, on peut mettre un peu des herbes pour leur donner une forme un peu plus goûteuse, en fait, moins l'aspect de légumes. Après, je ne pense pas que l'enfant ait besoin de faire une recette qui va nous prendre 3 heures. Enfin, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit pour l'enfant. Je pense que c'est vraiment le travail du goût depuis, je dirais, j'ai presque envie de dire, depuis la grossesse, en fait. C'est-à-dire que si l'enfant a déjà été habitué pendant la grossesse à ce que la maman mange du tout, puis après, il y a eu peut-être un peu d'allaitement où là aussi, le lait avait le parfum de ce que mangeait la maman, ou des bonnes odeurs dans la maison. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aussi jouer ou faire des ateliers avec les enfants autour de la cuisine, mais pas en accent spécifiquement sur les légumes. On va essayer de travailler un peu en transversal et pas forcément y passer 3 heures, parce qu'à la fin, on a passé 3 heures, une recette hyper sophistiquée et que l'enfant ne la mange pas.
Imaginez,
tout ça pour ça. Donc bon, après, si soit on a envie de se faire plaisir, pourquoi pas, hein, et que l'enfant en profite, je pense que c'est très bien. Mais de là, aller rechercher toutes les recettes de légumes, et n'oublions pas, je pense qu'il faut autant de féculents que de légumes. Oui. Enfin, je sais pas, je pense que c'est aussi ce que nous dit quand on fait des calculs, si on n'a que du légume, ça marche pas. Donc l'association légumes-féculents-matière grasse, c'est un point important, en fait. Donc je dirais que si, par exemple, d'un côté, on fait des pommes de terre sautées avec des haricots verts sautés, ça peut marcher, hein. Et les enfants qui vont très bien les manger, ou des champignons, ou passer une soupe au potiron avec des petits croutons, du gruyère râpé. Enfin, bon, c'est pas très compliqué à faire et ça peut mettre un peu de plaisir. Maintenant, je pense qu'il faut pas se dire il doit absolument le manger. Je l'ai fait, il doit absolument le manger. Je pense que c'est...
On ne se braque pas.
Voilà, on fait un repas. Après, on peut proposer un peu de féculent à chaque repas. Maintenant, on ne va pas le remplacer, le légume non mangé, par du féculent. On va en proposer un peu, puis il se passe ce qui se passe, en fait. Zénitude, j'ai envie de dire.
Et voilà, zénitude, c'est vraiment le mot de la fin. Merci Catherine, je pense qu'on va arrêter de se prendre la tête et j'espère que toutes les mamans, tous les papas qui nous écoutent se sont rendus compte que les légumes, c'est bien, c'est important, mais c'est pas non plus la fin du monde et le drame si vos enfants passent par une période où ils n'en mangent pas. Et puis on essaye de pas trop les tromper et de pas dire, en tout cas, hein, que les haricots verts, c'est des frites. Ce n'en est pas, les haricots verts sont des haricots verts.
Exactement.
Merci beaucoup Catherine Bourron-Normand pour avoir répondu à toutes nos questions.
Je vous en prie, c'était avec plaisir.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisiz. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.